Monsieur le Président de la République italienne, Monsieur le Président de la Conférence mondiale, Monsieur le Directeur général de la FAO, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront pour féliciter le Président Caldera de son élection à la présidence de la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural. Cette conférence qui réunit aujourd'hui tant d'éminents délégués venus de tous les continents revêt une importance capitale pour les pays en développement. En effet, l'expérience de ces deux dernières années du développement n'a pas répondu entièrement à l'attente de l'immense majorité des masses rurales du tiers-monde. Celles-ci continuent encore de vivre dans des conditions qui, bien souvent, font des paysans, pasteurs et pêcheurs les véritables prolétaires du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous savons gré à M. Edouard Sahuma, directeur général de la FAO, d'avoir pris l'heureuse initiative d'organiser cette conférence dans le cadre des Nations Unies. Et nous le remercions d'avoir bien voulu nous inviter à l'inauguration de ces assises. En engageant la communauté internationale à élaborer une nouvelle politique du développement rural pour les décennies à venir, votre conférence est porteuse d'un immense espoir, l'espoir d'un avenir chantant pour l'homme, cet homme qui doit être au début et à la fin du développement. Si, Monsieur le Directeur général, vous avez invité quelques chefs d'État à la présente conférence, c'est pour que, s'appuyant sur des idées générales et mieux sur une théorie du développement, ils vous parlent des expériences concrètes réalisées dans leurs pays respectifs. C'est ce que je m'efforcerai de faire. Depuis longtemps, depuis bien avant l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, ces élus au Parlement français s'étaient réclamés du socialisme démocratique comme la pensée directrice qui devait conduire leur pays à son développement économique et social. Au développement intégral de l'Homo Sénégalensis dans le cadre d'une Afrique qui aurait récupéré et fait fructifier son identité culturelle. Nous avons pour nous fait une relecture négro-africaine de Marx et d'Engels. Au terme de cette relecture, qu'est pour nous le socialisme? C'est d'abord, comme l'indique son étymologie grecque, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir exercé par le peuple et dans l'intérêt du peuple, ce qui signifie des élections régulières dans un régime multiparti. Le socialisme, c'est en second lieu l'abondance des biens non seulement matériels, mais encore et surtout spirituels, grâce aux sciences et à l'emploi des techniques les plus modernes. C'est enfin la justice sociale, c'est-à-dire la répartition juste des biens que voilà, selon les besoins minima, le mérite et partant le travail. Bref, le socialisme, c'est la révolution, moins comme un changement soudain que comme un bouleversement profond qui établit un nouvel ordre dans la société. Or donc, si nous avons accédé à l'indépendance politique en 1960, c'est que nous avions auparavant acquis l'indépendance culturelle grâce à la théorie de la négritude, cette indépendance culturelle qui est la condition sine qua non de toutes les autres indépendances. Mais l'indépendance politique elle-même est peu de choses si elle n'est pas complétée par l'indépendance économique et sociale. Elle serait au mieux une réforme libérale, c'est-à-dire bourgeoise. C'est la raison pour laquelle, au lendemain de l'indépendance du Sénégal, le parti dominant, l'Union progressiste sénégalaise, qui est devenu le Parti socialiste du Sénégal, a décidé de réaliser dans les campagnes, je ne dis pas des réformes, mais la révolution agraire. Avant d'aller plus loin, voici la carte d'identité de ce peuple. C'est, sur 200 000 kilomètres carrés, un peuple de 5,5 millions d'habitants, dont 68% sont des ruraux. C'est à la veille de l'indépendance du Sénégal, obtenue en 1900, c'est à la veille de l'indépendance du Sénégal, après l'autonomie obtenue en 1957, que nous avons commencé d'élaborer un plan quadriennal de développement économique et social qui nous ferait entrer dans la civilisation industrielle à l'horizon de l'an 2000. Nous sommes actuellement au milieu du cinquième plan. Dès le quatrième plan, nous avions décidé de faire de la culture une surpriorité et du développement rural la première priorité. Pourquoi ? C'est d'abord que les ruraux sont la grande majorité, qu'ensuite, comme nous sommes au bord du désert du Sahara, le problème de l'environnement, c'est-à-dire de la lutte contre la désertification, ne pouvait être qu'une première priorité. Qu'enfin, si jusqu'au paléolithique supérieur, l'Afrique avait été, selon Théard de Chardin, en tête de la civilisation humaine, c'était à cause de la symbiose de l'homme et de la nature, du caractère paysan de ces sociétés, ce qui explique le code de l'environnement que nous élaborons actuellement au Sénégal. Faisant donc du développement rural la première priorité, il s'agissait de réaliser les objectifs fondamentaux de toute révolution agraire digne de ce nom. Premièrement, remplacer le système féodal de la tenure des terres par un système qui fut à la fois démocratique et socialiste, c'est-à-dire efficace. Deuxièmement, pour cela, doter les paysans d'instruments et de méthodes culturales modernes, sans oublier les pasteurs ni les pêcheurs. Troisièmement, informer leur culture générale ou la compléter en leur donnant une éducation professionnelle rurale. Donner ces indications générales, je voudrais dire comment nous nous efforçons depuis l'indépendance de réaliser ces objectifs de croissance économique et de développement en même temps. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit plus haut, il ne suffit pas d'être indépendant politiquement. Il ne suffit pas de jouir des droits politiques du citoyen, encore faut-il, pour être un homme intégral, jouir des droits économiques et sociaux, singulièrement si paysan, on n'est pas propriétaire de la terre que l'on cultive, comme des animaux et des instruments aratoires dont on se sert. Avant l'indépendance, le régime foncier au Sénégal était caractérisé par la tenure féodale de la terre. Le laman, c'est-à-dire le maître de terre, était le propriétaire du sol qu'il louait à des paysans sans terre contre une redevance annuelle de plus en plus élevée qui se transforma sous la colonisation en charge pécuniaire. Comme en Europe, celui qui n'avait d'abord que le droit d'usage sur la terre du clan était devenu un propriétaire, tandis que les paysans détribalisés étaient devenus des prolétaires. C'est ainsi qu'à l'indépendance, 95% des terres étaient la propriété de 15% de la population, dont ma famille au demeurant. Quand un paysan avait amendé sa terre par phosphatage de fonds, par exemple, le maître de terre la lui reprenait et la louait plus cher à un autre. La révolution a consisté à abolir le droit de propriété pour revenir à l'ancienne tenure négro-africaine où le paysan avait le droit d'usage sur la terre qu'il cultivait. 4 ans après l'indépendance, nous avons donc pris la mesure la plus révolutionnaire de notre révolution agraire. C'est ainsi que la loi du 27 juin 1964 relative au domaine national a nationalisé 95% des terres détenues par les lamanes et en a confié la gestion aux communautés rurales. C'est ainsi encore que, complétant cette première loi, la loi du 18 avril 1972 relative à la réforme de l'administration régionale et locale a défini le statut de la communauté rurale. Qu'est-ce qu'une communauté rurale ? C'est un ensemble d'une dizaine de villages et de hameaux qui comprennent une population de 5 à 15 000 habitants. Les organes de la communauté rurale sont d'une part le conseil rural et d'autre part le président. Organes délibérants, dont les 2/3 sont élus au suffrage universel et l'autre constitué par les représentants des organismes coopératifs. La communauté rurale règle par ses délibérations les affaires de la communauté et notamment les modalités d'application du droit d'usage sur la terre. C'est lui qui affecte et désaffecte les terres sur lesquelles les paysans exercent ce nouveau droit qui se transmet de père en fils. Avoir le droit d'usage sur la terre que l'on cultive, c'est bien, mais avoir à son service des instruments aratoires et modernes, ainsi que des engrais industriels, c'est encore mieux. Avoir des instruments modernes ne suffit pas non plus. Il faut assimiler les nouvelles techniques culturales en disposant de graines sélectionnées, de semences sélectionnées. En ce qui concerne les instruments aratoires, les paysans sénégalais avaient commencé, avant l'indépendance, de se servir de semoirs, mais aussi de charrues légères ou tirées par des chevaux ou des ânes. L'effort de la direction de l'agriculture et des sociétés d'encadrement technique a surtout consisté ici à remplacer la houe par la charrue lourde à versoir avec traction bovine. Car seule cette charrue permet de retourner la terre en exécutant des labours profonds. C'est ainsi qu'ont été mises en place 375 000 unités pour 500 000 familles de paysans. S'agissant des engrais, puisque nous avons des phosphates, les phosphates même sont notre deuxième exportation Nous avons construit en son temps une usine d'engrais et en 1976, nous avons distribué plus de 100 000 tonnes, multipliant par 20 le tonnage de 1960, sans parler des insecticides. Reste le plus important, les semences sélectionnées. Grâce à nos chercheurs, nous avons, depuis l'indépendance, réussi à introduire, voire à créer nous-mêmes plusieurs variétés de plantes, surtout d'arachides, variétés adaptées à nos climats, singulièrement aux coefficients pluviométriques de chaque région. Le ministère du Développement rural a même créé un service semencier. Quelques chiffres illustreront mon propos. Quelques chiffres, il y a des coquilles et c'est pourquoi je relirai doucement. Depuis 1960 donc, nous avons multiplié le tonnage des engrais par 20, celui des fongicides par 2,9 et celui des semences sélectionnées par 3,2. Tout cela nous a permis d'accroître d'une façon sensible nos rendements à l'hectare et c'est ça qui est important. C'est ainsi que, de 1945 à 1978, les rendements à l'hectare sont passés pour l'arachide de 6 à 18 quintaux à l'hectare, pour le mil de 7 à 20 quintaux, pour le riz sous pluie de 10 à 25 quintaux et en culture irriguée de 20 à 60 quintaux. Pour le sorgho, de 7 à 25 quintaux et pour le maïs, de 10 à 35 quintaux. C'est-à-dire que grâce aux semences sélectionnées, aux engrais et aux instruments aratoires modernes, nous avons obtenu des rendements comparables aux rendements européens. Puisqu'en agriculture, la condition sine qua non du développement est l'autosuffisance alimentaire, nous avons élaboré un plan à long terme de construction de 13 barrages, seuls ou en coopération avec les États voisins. Cela nous permettra de multiplier par 5 la production de céréales qui est actuellement de 1 200 000 tonnes. Je serai plus bref sur l'élevage et la pêche. Notre troupeau est actuellement de 2,5 millions de bovins et de 4 millions d'ovins et de caprins, sans parler de la volaille. En matière de santé animale, nous avions assez de vétérinaires dès avant l'indépendance. Depuis lors, nous avons créé un institut de médecine vétérinaire qui reçoit les étudiants de toute l'Afrique noire francophone. Ajoutons-y la gratuité des soins sanitaires pour les animaux et la suppression de la taxe sur le bétail. Ici aussi, de nouvelles méthodes ont été assimilées. Non seulement nous importons des aliments pour bétail, mais encore, nous avons monté une industrie de tourteaux d'arachide. Il reste que la mesure la plus révolutionnaire parmi d'autres, elle consiste à intégrer l'élevage dans l'agriculture, ce qui est en bonne voie, mais surtout à créer des fermes d'embouche. S'agissant de la pêche, le plus important, ce n'est pas la pêche industrielle organisée surtout par des Européens, Français, Espagnols, Italiens, Polonais. Le plus important, c'est la pêche artisanale avec la pirogue traditionnelle. La révolution ici a consisté à doter la pirogue d'un moteur qui lui permet de rester 48 heures en mer. Grâce à quoi? Nous avons pêché l'an dernier 368 000 tonnes de poissons et de crustacés. On peut comparer ce chiffre à la pêche française qui a été de 600 000 tonnes l'an dernier pour une population 10 fois plus nombreuse. Comme je l'ai suggéré plus haut, la recherche occupe une place importante dans notre révolution agraire. Au sommet, il y a, dépendant du Premier ministre, le secrétaire d'État à la recherche scientifique et technique. La recherche fondamentale se fait à l'Université de Dakar et dans ses instituts spécialisés. Il reste que celle-ci n'est jamais tout à fait séparée de ses applications techniques. Quant à la recherche appliquée, elle se poursuit à l'Institut de médecine vétérinaire et dans les écoles professionnelles d'enseignement supérieur, mais surtout à l'Institut sénégalais de recherche agricole et océanique. Il nous faut mentionner en même temps l'Institut de technologie alimentaire qui joue un rôle non négligeable. Parmi d'autres résultats, ce dernier institut assure la promotion de nouvelles industries alimentaires. Il reste que les écoles et centres de formation sont encore plus nombreux que les organismes de recherche. En ce qui concerne le secteur rural, nous avons, outre l'Institut de médecine vétérinaire, l'Institut du développement rural et l'École des cadres ruraux, qui forment respectivement des ingénieurs de conception et des ingénieurs d'exécution dans des domaines aussi variés que l'agronomie, le génie rural et les eaux et forêts. S'agissant de la formation d'agriculteurs et d'artisans modernes, nous avons plusieurs centres. En outre, il y a dans chaque arrondissement, c'est-à-dire pour 20 000 habitants, il y a un centre d'expansion rurale polyvalent. Les instructeurs ici appartiennent à plusieurs services, éducation nationale, santé et d'abord agriculture et eau et forêt. Il s'agit en somme, grâce aux sociétés d'encadrement et d'assistance technique, de faire assimiler par nos paysans non seulement les techniques culturales modernes, mais encore celles de la coopération. C'est ainsi que tous nos paysans sont insérés dans un réseau de coopératives. Il y en a plus de 1 000. Je signale, pour finir, la création, il y a quelques années, d'un enseignement moyen pratique, c'est-à-dire pré-professionnel, enseignement réservé aux élèves de 12 à 16 ans qui n'auront pas été reçus au concours d'entrée dans l'enseignement moyen, général ou technique. Comme l'indique son nom, c'est un enseignement qui prépare à des métiers manuels et qui reçoit 80% des écoles sorties de l'école primaire. Reste les structures d'assistance technique. Cette assistance s'adresse donc aux paysans groupés en coopératives d'agriculteurs, d'éleveurs ou de pêcheurs. Il y a d'abord l'Office national de coopération et de développement, ONCAD, qui remplit un double rôle d'assistance industrielle et commerciale. Il approvisionne les coopératives en facteurs de production en leur livrant notamment des charrues, des engrais, des fongicides et d'une façon générale des moyens de lutte phytosanitaire. Il commercialise d'autre part leurs produits et il fait rembourser les prêts consentis par la Banque nationale de développement du Sénégal, BNDS. Celle-ci, qui est un organisme d'économie mixte, a pour principale activité l'octroi de crédits aux ruraux. Ces prêts se font par l'intermédiaire de l'ONCAD et sur la base, c'est important, sur la base d'une responsabilité solidaire des membres des coopératives. Il y a aussi le Fonds mutualiste de développement rural, mais surtout la caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Cette caisse est l'instrument principal du gouvernement dans sa politique des prix. Il s'agit d'une part de garantir des prix rémunérateurs aux producteurs, mais en même temps, grâce à des subventions de l'État, de maintenir au-dessous des cours mondiaux les prix des denrées de base, riz, huile, sucre, etc. Il en résulte ce fait important que, grâce à des salaires modérés dans l'administration et l'industrie, mais également au prix modéré des principales denrées de base, le Sénégal peut exporter la moitié de ses produits industriels à des prix compétitifs, tout en permettant au monde du travail citadin et ruraux de vivre dans une certaine aisance. Je vais conclure en résumant les faits qui expriment la révolution agraire déclenchée par le Sénégal depuis son indépendance et que nous voulons porter jusqu'à son terme ultime, socialiste et démocratique. Nous avons substitué à la tenure féodale des terres une tenure communautaire et démocratique en revenant aux racines de la civilisation négro-africaine. Nous avons mis à la disposition des paysans et des pêcheurs des instruments et des méthodes efficaces parce que modernes de travail. Enfin, grâce à un enseignement professionnel et pré-professionnel, ainsi qu'à la recherche fondée sur les mathématiques et la technologie, nos paysans formés à la coopération et encadrés par des sociétés d'assistance technique ont augmenté d'une façon remarquable leur rendement à l'hectare. En définitive, notre révolution agraire est un pari sur l'homme. C'est pourquoi elle se fait dans le cadre d'un régime démocratique où coexistent quatre partis. À mes yeux, la principale exigence du nouvel ordre économique et culturel dans le monde est qu'il y ait plus de justice dans l'éducation et le bien-être, mais surtout, et c'est l'essentiel, qu'il y ait un regard neuf sur la terre des hommes, car il n'y a pas de révolution sans un regard neuf. Je veux dire, une considération plus attentive pour l'autre dans une fraternité reconnue. C'est alors seulement que triomphera l'homme nouveau, l'homme intégral de cette fin du XXe siècle. Je vous remercie.